affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Comme la plupart d'entre vous, nous vivons sous le régime d'un confinement subi qui réduit drastiquement la vie sociale. De leur côté, les personnages du dernier livre d'Amin Malouf de l'Académie française, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, sont en quelque sorte des confinés volontaires. Ils ont en effet décidé de mettre en œuvre ce qu'ils appellent la solution Robinson. Vivre seul sur une île, se replier chacun de leur côté, pour vivre une existence recluse et, pour tout dire, un petit peu misanthrope. Toutefois, des événements extraordinaires et étranges vont les pousser à se rapprocher l'un de l'autre et à se soucier aussi, à nouveau, d'une humanité à l'avenir incertain. Ce roman s'appelle « Nos frères inattendus ». Il est publié chez Grasset et nous avons à avoir le plaisir de l'explorer en compagnie de son auteur. Bonjour Amin Malouf.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Et tout d'abord, nous voudrions vous faire part de notre plaisir de vous voir revenir sur le territoire du romanesque et du roman, car depuis quelques années, vous ne nous gratifiez que d'essais. Et cette fois, il s'agit donc bien d'un roman, et même d'un roman qu'on pourrait qualifier de science-fiction. On navigue entre quelque chose qui est entre la dystopie, l'utopie, l'uchronie. Et donc, c'est extrêmement... romanesque et plein de suspense par ailleurs. J'étais intrigué pour commencer par cette phrase que vous mettez en exergue du livre. C'est une phrase de Novalis qui dit « Les romans naissent des manquements de l'histoire ». Est-ce la raison pour laquelle vous avez quitté provisoirement peut-être l'univers des essais ?
Je dirais que oui. J'ai le sentiment depuis un certain nombre d'années que nous vivons une époque inquiétante. Mon dernier essai s'intitulait « Le naufrage des civilisations ». Je pense que c'est assez révélateur de ce que je ressens. La première phrase, d'ailleurs, de cet essai était « Je suis né en bonne santé dans les bras d'une civilisation mourante ». Beaucoup de gens ont eu le sentiment que je parlais de ma civilisation natale, la civilisation du Levant, mais ce n'est pas uniquement celle-là. Disons qu'elle est probablement un peu plus mourante que d'autres, mais je crois que nous vivons une époque où quelque chose est en train de disparaître. Nous essayons de nous convaincre que ce n'est pas le cas. Nous faisons comme si tout ce qui arrive est une parenthèse qui sera un jour oubliée. Je ne le pense pas. J'ai le sentiment que nous entrons dans une phase de grande incertitude, probablement la fin de quelque chose que nous avons connu et le début de quelque chose que nous ne connaissons pas. Ce roman est un peu issu de ce sentiment. Le monde arrive à la fin de quelque chose. Bon, dans ce livre, je l'imagine interrompu par une alerte nucléaire, et puis quelque chose arrive qui le retient au bord du gouffre et qui l'empêche de tomber. Mais la phrase de Novalis, pour y revenir, représente exactement ce que je pense. Je pense que l'humanité a dérivé dans une direction qui n'est certainement pas celle que j'espérais, pas celle que je prévoyais. Et ma manière d'exprimer mon inquiétude, c'est à travers ce roman.
Alors oui, les deux personnages, et vous-même, cela je l'ai bien compris, sont tenaillés par une sorte de sentiment de la catastrophe imminente. Et si je ne me trompe pas, effectivement, l'apocalypse nucléaire qui plane comme une inquiétude sur le début du livre n'est qu'une métaphore de beaucoup d'autres catastrophes possibles. Toutefois, face à ce sentiment, les deux personnages qui ont choisi l'isolement et le retrait n'ont pas tout à fait la même attitude face à l'humanité. Le premier personnage, c'est un homme qui s'appelle Alec, s'est retiré, dites-vous, pour l'observer plus sereinement, pour prendre une sorte de recul, mais pour continuer à observer avec une forme de bienveillance l'humanité, tandis que l'autre personnage, qui est une femme qui s'appelle Ève, elle a sombré franchement dans la misanthropie.
Ève a une véritable rage contre le monde tel qu'il est devenu. Alec est plus serein de ce point de vue. Et peu à peu, dans le roman, ils vont se rapprocher l'un de l'autre et leur vision du monde va, tout en demeurant très différente, va s'harmoniser. Je dirais que, pour ma part, je partage les deux visions.
Et y a en des... permanence ou alternativement ?
Alternativement, et je pense qu'elles coexistent en moi. Il y a des moments où je me dis que il vaut mieux que je sois un peu à l'écart du monde, parce que le monde va vers dans le mur, pour dire les choses comme cela, et donc je vais rester un peu en observateur, en lançant quelques cris d'avertissement de temps à autre. Et puis, il y a des moments où je suis vraiment en rage, parce que je me dis l'humanité avait tout pour réussir, et depuis quelques temps, nous ne savons plus ni gérer les relations entre les différents groupes humains, ni gérer notre rapport aux nouvelles technologies, ni inventer le monde nouveau qu'impose c'est notre évolution scientifique, ni éviter les retours à la barbarie. J'observe tous les jours l'actualité du monde avec rage, et donc je comprends certainement la rage qu'exprime Ève tout au long du livre. Et je crois que je continuerai toujours à balancer entre les deux. Je n'ai pas de cette misanthropie que vous mentionnez, je ne l'ai pas moi-même, au contraire. Moi, j'ai une affection profonde pour l'aventure humaine, ce qui ne m'empêche pas de penser qu'elle va dans le mur.
Alors ça, oui, parce que le personnage d'Ève est un personnage qui a fait, c'est un mot à la mode aujourd'hui, mais sécession. Elle est même, je trouve, tenue par une forme de sentiment de pureté, peut-être presque exagéré. Est-ce que je me trompe ? C'est-à-dire qu'il y a un côté tout ou rien avec elle.
Je dirais qu'elle a beaucoup d'exigences et pas suffisamment de sens du compromis. Alec a beaucoup d'exigences, mais en même temps il a le sens du compromis, et donc lui il est dans ce roman celui qui relie des mondes différents. Il relie le monde qui l'entoure immédiatement, cette petite île, l'archipel à côté. Il a un lien très fort avec les gens qui l'entourent, et en même temps il est en contact avec le vaste monde, notamment à travers un ami de jeunesse qui occupe une position très importante. Et donc, il est constamment entre le monde tel qu'il est, le monde même tel qu'il est gouverné, et le monde tel qu'il peut le vivre au quotidien. Ève, elle vit dans son propre monde. Elle est en colère contre ce qu'elle voit autour d'elle. Elle ne veut pas. Elle refuse l'évolution du monde telle qu'elle est et elle l'exprime avec virulence. Mais je la comprends aussi.
Oui, elle est tenaillée par une sorte d'amour déçu. Alors, nous avons planté le décor de ces deux personnages qui avaient donc décidé de se réfugier sur un îlot de l'Atlantique, si je ne me trompe pas, isolé. Mais les sécessions ont toujours une fin. En l'occurrence, il y a cette menace d'apocalypse nucléaire qui est pressentie. Et puis, surtout un événement beaucoup plus étrange, soudain, plus rien ne fonctionne. En tout cas, plus rien de ce qui fonctionne avec de l'électricité. Tout tombe en panne. Et paradoxalement, cet événement qui devrait les couper encore plus des autres, les force à se rapprocher. Que se passe-t-il exactement? Parce qu'il faut aussi donner quelques jalons concrets dans le déroulement de l'histoire.
Ce qui est assez étonnant, c'est que les deux personnages qui vivent seul sur une île où il n'y a que deux habitants, lui et elle, ne se parlent pratiquement pas. Chacun vit seul sur cette île et il a fallu qu'il y ait ce sentiment d'apocalypse pour qu'ils se rapprochent et qu'ils commencent à parler du monde qui les entoure et puis d'eux-mêmes. Et je pense qu'il y a dans ce livre à la fois l'aspect global et l'aspect intime. Je dirais le plus global et le plus intime, puisqu'il se passe à la fois au niveau des liens entre l'humanité telle que nous la connaissons et une autre civilisation qui est humaine mais pas tout à fait. Et puis, il y a ce lien entre les deux personnages qui se tisse progressivement. Et en quelque sorte, c'est ce lien entre eux qui sauve le monde d'une certaine manière. Ils ne l'expriment jamais clairement, ni l'un ni l'autre, mais leur amour naissant est une
manière
de sauver le monde.
Oui, la rédemption est là, finalement.
Oui, et l'espoir de l'avenir naît de leur relation. Et c'est leur différence provoque une étincelle. Cette étincelle, ils en avaient besoin l'un et l'autre, et peut-être que, d'une manière plus basse, on a besoin d'une étincelle de ce type.
Peut-être faut-il, pour que nous poursuivions notre conversation, révéler une partie de l'intrigue du livre, mais elle est mise en place tout au début, donc nos auditeurs voudront bien nous pardonner, vous aussi j'espère. Donc il y a ce risque d'apocalypse nucléaire qui plane dans l'actualité, les deux protagonistes en sont bien conscients, soudainement l'ensemble des outils qui fonctionnent avec de l'électricité ne fonctionnent plus, et donc ils s'imaginent que c'est une apocalypse nucléaire. En réalité c'est tout autre chose, c'est-à-dire que des êtres d'une nature différente ont volé au secours de l'humanité pour empêcher cet apocalypse. Cela semble d'abord une excellente nouvelle, mais qui en même temps est extrêmement inquiétante et rebat considérablement les cartes de la lecture de l'avenir de l'humanité. Est-ce que vous pouvez d'abord poser le décor ?
En fait, c'est vrai que le monde, au moment où commence le livre, vit un moment de grande tension. On a peur d'un conflit nucléaire. Quand, à un moment donné, toutes les communications sont coupées et toutes les lumières aussi, les deux personnages ont le sentiment que ce qu'ils craignaient, ce que le monde entier craignait, est arrivé, un conflit nucléaire qui a tout détruit. Et peu à peu, on se rend compte que ce n'est pas le cas, que quelque chose est arrivé, qu'une intervention d'une, non pas d'une d'autres êtres venus de l'espace ou d'ailleurs, mais une population venue du fin fond de l'aventure humaine. Et je dirais un des moments les plus beaux à mes yeux de l'aventure humaine, c'est le miracle athénien. Quand, il y a près de 2 millénaires et demi, quelque chose a commencé du côté de la Grèce, donc quelque chose qu'on n'attendait pas, puisqu'on n'avait pas l'impression que l'évolution de l'humanité pouvait déjà produire une civilisation aussi avancée que celle qui a éclos à ce moment-là, avec les commencements de la philosophie, les commencements du théâtre, de l'historiographie, de les commencements de la démocratie. Tout cela commence à un moment où on ne l'attend pas vraiment. C'est pourquoi on parle de miracle. On a l'impression que tout cela aurait dû prendre beaucoup plus de temps et être arrivé au bout d'une très longue évolution. Et j'ai toujours été fasciné par ce miracle grec, parce que il me semble qu'il révèle les potentialités les plus profondes et les plus fortes de l'être humain. Nous avons la capacité, même quand les conditions matérielles, économiques et autres ne sont pas remplies, nous avons la capacité de tirer de l'esprit humain quelque chose d'extraordinaire. Et donc, j'ai imaginé, et je dois dire que j'en rêvais depuis longtemps, j'ai imaginé une population qui serait venue en quelque sorte du miracle grec antique. Parce qu'il faut dire aussi que ce miracle grec, qui a commencé subitement, a duré très peu de temps. Au bout de 70-75 ans à peu près, il avait pratiquement disparu pour l'essentiel. Et après, l'humanité n'a plus retrouvé cette inspiration, cette force du miracle produit simplement par l'esprit humain. Jamais on ne l'a retrouvé de cette manière. Bien sûr, au bout de 2000 ans ou 1500 ans, on a commencé à parler de renaissance, mais il n'y a jamais eu un miracle équivalent. Et je me suis imaginé une population qui aurait été l'héritière de ce miracle grec, qui, à la fin de cette époque bénie, se serait retirée, se serait répandue à travers le monde, aurait maintenu des liens de parenté, de solidarité, quelque part dans le monde. C'est difficile à imaginer, mais ce n'est pas totalement inimaginable. J'ai imaginé que ces populations ont pu se retrouver dans des zones peu contrôlées autour des mers du globe, et qu'à un moment donné, ces populations ont pu revenir vers nous avec les échos de ce miracle antique. Et c'est de cela que ce livre est né, en fait.
Et venir sauver l'humanité.
Qui a certainement besoin d'être sauvée. Je ne sais pas si elle le sera, je ne sais pas par quels moyens ce sera fait. Bien entendu, ce que je raconte, c'est l'imagination romanesque ou poétique, mais il est certain que l'humanité devra, à un moment donné et avant longtemps, être sauvée. Il faudra un sursaut, il faudra mettre fin à la dérive actuelle. J'espère que ce que nous avons connu au cours de cette année 2020 va provoquer un sursaut, que cette pause que l'humanité a prise va lui permettre de réfléchir à qu'elle est en train de faire, à ce qu'elle est en train de devenir, et quelque chose va arriver. Ça va pas venir de l'espace, ça doit venir de nous, c'est-à-dire de ce qu'il y a de meilleur dans l'esprit humain, dans l'aventure humaine, ce qu'il y a de meilleur, pour pouvoir nous sortir de la dérive actuelle.
Je suis heureux que vous disiez ça, car tel qu'il se déroule, le roman a une petite dimension messianique, c'est-à-dire que ces êtres venus du passé, de cette Grèce antique déjà humaniste, sont comme une sorte de sauveurs qui viendraient de l'extérieur. Mais en réalité, il ne faut pas oublier que ce sont des humains comme nous, qui ont choisi une autre voie.
Bon, moi, je voulais que le sauvetage ait lieu d'une certaine manière, et je voulais qu'il vienne de nos semblables, non pas de
quelqu'un d'extraterrestre
d'ailleurs.
Oui.
Bien entendu, c'est un conte, ça n'a aucune prétention à être réaliste, sauf peut-être dans la description du monde tel qu'il est aujourd'hui. Là, ce que je dis du monde aujourd'hui, c'est la réalité du monde. L'idée d'une population venue de notre histoire, de la plus belle page, d'une des plus belles pages de notre histoire humaine, venue nous sauver, c'est le conte, c'est le rêve, mais la réalité du monde telle qu'elle est décrite, la réalité d'un monde qui est à la dérive, la réalité d'un monde qui pourrait se détruire sans même savoir qu'il est en train de se détruire, ça c'est la réalité du monde d'aujourd'hui.
Il y a aussi autre chose qui est très réaliste, c'est que ces gens arrivent plein de bonnes intentions, avec une médecine extraordinaire qui peut permettre de prolonger la vie, avec aussi une sagesse extrêmement profonde, mais les réactions ne sont pas nécessairement celles que l'on attend, car en réalité, cette irruption d'être malgré tout supérieur, y compris en sagesse, pose un grand nombre de problèmes.
Parce que d'abord en venant nous sauver de nous-mêmes, et en le faisant même avec probablement les meilleures intentions du monde, en réalité, ils établissent, qu'ils le veuillent ou non, un rapport de domination. Nous leur sommes redevables, nous leur sommes acquis, nous sommes d'une manière ou d'une autre leurs obligés, et nous devenons un peu aussi leurs adorateurs et leurs esclaves. Et là, il y a un autre aspect de l'histoire qui m'intéresse, que j'ai voulu explorer à travers ce roman. Parfois, une civilisation, avec les meilleures intentions du monde, peut devenir dominatrice, peut devenir écrasante, non pas parce qu'elle a une volonté d'écraser ou de dominer, mais par le simple rapport de force. Et là, je pense un peu au lien que l'Occident a eu, par exemple, avec les civilisations amérindiennes ou d'autres, ou en Afrique et ailleurs. Souvent, des populations plus puissantes, mieux armées, sont arrivées et qui parfois portaient dans leur tête des idées généreuses, mais du seul fait du déséquilibre entre elles et les populations qu'elles sont censées aider, un rapport très malsain se crée. Je crois que dans le monde d'aujourd'hui, ces rapports continuent. Ils existent depuis quelques siècles, peut-être depuis toujours, mais les liens entre les différentes composantes de l'humanité d'aujourd'hui sont affectés par cet héritage de rapports inégaux entre les civilisations.
Oui, qui sont décrits comme une fatalité, c'est-à-dire que vous prenez l'image effectivement de, mettons, si Hernán Cortés, même animé des meilleures intentions du monde, lorsqu'il débarque en Amérique du Sud, ce qui n'était pas le cas, mais combien même il n'avait aucun désir d'or, de rapine, ni de quoi que ce soit, aurait causé un bouleversement effroyable et une perte de dignité impossible à éviter, et c'est précisément ce qu'il se passe, mais ici, à l'échelle de l'humanité, tout entière, lorsque ces êtres bienveillants arrivent avec une science sans commune mesure avec celle qui existe aujourd'hui. Tant et si bien qu'au-delà de cette affaire de rapport de domination, il y a aussi une réflexion dans le livre, et pour ma part c'est l'aspect qui m'a le plus intéressé, sur ce qui constitue la nature humaine, ce qui fait son charme et son intérêt, et pour tout dire, oui, sa dignité.
Oui, absolument. Et s'il y a des sauveurs qui arrivent et qui sont tellement avancés qu'ils rendent obsolète notre science, qui rendent obsolète tout ce qu'a produit notre civilisation, il y a une destruction qui peut ne pas être volontaire, mais qui est réelle. Et j'ajouterai que dans ce livre, j'imagine cette humiliation appliquée à l'ensemble de l'humanité, mais tout au long de l'histoire, il y a eu des peuples qui ont subi cette humiliation, qui soudain, du jour au lendemain, ont vu leur science devenir complètement obsolète, complètement dépassée, parce qu'il y avait une autre science beaucoup plus avancée qui a rendu la leur purement anecdotique ou folklorique. Et ces peuples mettent généralement des siècles à retrouver leur dignité et parfois ils ne la retrouvent pas. Moi, je suis passionné par la manière dont certains peuples se sont battus depuis des siècles pour retrouver ce qu'ils avaient ou croyaient avoir. Prenez par exemple les Japonais ou les Chinois ou d'autres qui, à un moment donné, ont été en contact avec les peuples européens ou avec les États-Unis, qui soudain ont découvert qu'ils étaient en retard dans beaucoup de domaines, qui croyaient jusque-là que leur culture était une culture tout à fait normale, tout à fait ce qu'elle devrait être, et puis soudain ils découvrent qu'elle est complètement marginalisée et qui cherchent des moyens de se remettre à niveau. Moi, je viens d'une région où la chose est évidente. Bon, dans le monde arabe, les gens ont eu pendant très longtemps le sentiment que leur civilisation était florissante, était ce que toute civilisation devrait être. Et puis à un moment donné, dans le monde arabe, on date cela de la campagne de Bonaparte en Égypte, à un moment donné, on s'est dit, tiens, on a pris énormément de retard et on n'a jamais rattrapé ce retard, et il y a des débats chez les lettrés, et puis chez les gouvernants, pour dire comment rattraper ce retard, comment réussir ce que les Occidentaux ont réussi, et pendant des générations, les gens essaient de trouver une manière de se réinsérer dans le monde où ils vivent, et parfois ils n'y arrivent pas. Et là, dans ce livre, j'ai imaginé non pas un peuple qui se retrouve dans la situation des peuples d'Amazonie, mais l'humanité entière qui, face à une civilisation plus avancée, se pose ce type de questions et fait face à ce type de dilemme.
Alors ça, c'est le premier aspect qui est extrêmement intéressant. C'est une sorte de géopolitique de la dignité des peuples face à ce type de relation de domination mais intellectuelle. Mais le livre, me semble-t-il, va plus loin encore. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion sur ce qui constitue la dignité de l'humanité, ce qui est forcément la question qui vient ensuite. C'est-à-dire que dans un premier temps, on se place sur une hiérarchie, où est-ce que je me situe par rapport à d'autres. Mais au final, pour avoir cet étalon, il faut se poser la question de qu'est-ce que l'humanité. Or, ceux qui arrivent, les amis d'Empédocle, pour ne pas les nommer, les fameux frères inattendus qui viennent sauver l'humanité, sont comme des dieux. Ils ont un pouvoir de vie et de mort, le pouvoir de prolonger la vie, un pouvoir qui s'apparente presque à une suppression de la liberté. C'est-à-dire que ça m'a fait penser, vous savez, aux réflexions d'enfants où on dit « Ah, mais pourquoi Dieu permet les guerres? Pourquoi il permet la maladie? Pourquoi il permet le malheur ?» Ceux-ci ont le pouvoir de supprimer tout cela, mais en même temps, évidemment, ils suppriment la liberté.
Et là, effectivement, c'est la condition humaine qui est remise en cause. Parce que finalement, si un jour, non pas par l'intervention d'un peuple venu d'ailleurs, mais par l'évolution de l'humanité que nous connaissons aujourd'hui, on arrivait à inverser les processus de vieillissement et qu'on parvenait à faire vivre les gens indéfiniment. On peut se demander s'il n'y a pas tout un aspect de ce qui fait la dignité de l'être humain qui disparaît avec. C'est-à-dire, c'est parce qu'ils sont mortels que les humains ont des préoccupations métaphysiques. C'est parce qu'ils sont mortels qu'ils produisent des œuvres artistiques qui se préoccupent de l'art, de la création. C'est l'homme sans la mortalité n'est plus vraiment l'être torturé qui produit l'art à cause de sa fragilité. On ne peut pas pour cela souhaiter que l'homme soit indéfiniment fragile, mais le jour où nos descendants vont conquérir l'immortalité, ils vont, sans s'en rendre compte, perdre beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est déjà un peu arrivé. Il y a du temps où les gens ne savaient pas s'ils allaient mourir à 20 ans ou à 25 ans ou 30 ans, il y avait une urgence dans la création, par exemple. Imaginez des gens comme Mozart ou d'autres qui font une œuvre gigantesque alors qu'ils ont 30 ans ou 32 ans ou 35 ans. C'est lié au fait de ne jamais savoir réellement de combien de temps il dispose. Il y a une urgence permanente, alors que nous, qui nous sommes habitués à vivre généralement jusqu'à 80-90 ans, ça c'est l'âge que nous prévoyons en principe, en moyenne, nous avons le sentiment que nous n'avons pas besoin de nous presser comme eux, de nous pousser de la même manière. Et donc, il y a un sens de l'urgence dans la création qui s'est déjà perdu à partir du moment où nous avons un peu déjà fait reculer la mort.
Du coup, je réinterprète totalement différemment cette phrase de Lise, qui prouve qu'elle était riche et que vous avez raison de la placer en exergue. Les romans naissent des manquements de l'histoire. Ces personnages viennent abolir l'histoire, finalement. Ils viennent, tel un dieu, créer un moment d'un éternel présent, finalement, puisque s'il n'y a plus avant ni après, ils apportent une sorte de stabilité et de bien-être permanent. Ils abolissent l'histoire. Les romans naissent des manquements de l'histoire. Eh bien, ils abolissent les manquements de l'histoire.
Vous avez raison.
Qu'il vaut mieux préférer.
Je dirais que dans ce livre, il y a les deux inspirations. Il y a d'un côté ce sentiment que j'ai d'un monde qui va à la dérive et ce rêve de voir quelqu'un intervenir, de préférence venu d'un très beau moment de l'histoire humaine, et une autre réflexion sur ce que nous sommes en train de faire de l'humanité, c'est-à-dire ce qui est en train de se perdre alors que nous avons le sentiment d'avancer. Il y a tant de choses qui sont en train de se perdre en route et nous n'en avons pas conscience parce que nous sommes persuadés que nous sommes en train d'avancer, ce qui est en partie vrai, mais pas totalement vrai. Et de toute manière, nous sommes persuadés, ce qui est complètement vrai, qu'on ne peut pas reculer. C'est-à-dire, une fois qu'une chose est inventée, on ne va jamais la désinventer. Une fois qu'on passe une étape, on ne revient pas en arrière. Et donc, il y a des choses qui se perdent, mais on n'y peut rien parce que on est déjà ailleurs. Et donc, le jour où on arrivera, par exemple, pour revenir à la question de l'âge et de la mortalité, le jour où on arrivera à la situation où on pourra prolonger la vie pendant... de toute manière, personne ne choisira de mourir s'il peut ne pas mourir. donc la réflexion qu'on peut avoir sur le rôle de notre mortalité pour faire de nous des humains, pour notre dignité d'humain, pour notre créativité d'humain, c'est une discussion que nous avons aujourd'hui parce que nous sommes mortels. Mais le jour où ce sera possible d'être ailleurs, soit de ne pas mourir, soit de vivre des centaines d'années, ce qui est encore une fois possible si on arrive à contrôler le processus de vieillissement, c'est une chose possible. Et comment vivrons-nous? Est-ce que nous ne serons pas tentés de ne plus jamais prendre aucun risque, de ne jamais conduire à plus de 30 km à l'heure? D'abord parce que nous avons un temps illimité. Et puis, aujourd'hui, on se dit, je ne veux pas prendre de risque parce que je n'ai pas envie de mourir trop tôt. Mais si la question n'est pas de mourir trop tôt ou plus tard, la question c'est de mourir ou de ne pas mourir du tout, à ce moment-là, les gens ne prennent plus aucun risque. Et donc, il y a une sorte d'ennui universel qui va s'installer. Nous serons tous des sortes d'animaux à sang-froid qui vivent au ralenti et qui vivent indéfiniment au ralenti. Et évidemment, cette étincelle de l'humanité angoissée, torturée, qui pousse des cris, qui s'écrit, c'est l'art, c'est la poésie, c'est le roman, tout ça va s'éteindre, forcément.
Alors, je ne veux pas faire de polémique, surtout pas, et ce n'est pas une précaution oratoire, sur la gestion de la crise sanitaire aujourd'hui, mais ce que vous venez de décrire, nous le ressentons peu ou prou, et ce doit être analysé, et moi j'en ai trouvé des échos dans votre roman, c'est que la sauvegarde de la vie physique, justement, peut mener a une certaine propension, pour la sauvegarder, à éteindre la vie tout court, et ce qui fait le sel de la vie. C'est-à-dire qu'on sent que la boussole a changé.
C'est vrai. La boussole a changé. Bon, je précise déjà que ce livre était bien entendu écrit avant la crise sanitaire, mais c'est vrai que nos priorités ont changé. Il y a une cinquantaine d'années, il y avait eu une épidémie de grippe en France, je crois qu'on l'appelait la grippe de Hong Kong, qui a fait pratiquement autant de morts que la pandémie actuelle. Et ce n'est pas seulement qu'on ne s'est pas confiné, qu'il n'y a pas eu un phénomène. On n'en parlait pas. C'est-à-dire, les journaux n'en parlaient pas. Quelques journaux de la presse dite populaire mentionnaient de temps à autre l'engorgement des hôpitaux. Mais la presse qui se considère respectable, digne, etc., ne l'a mentionné même pas. Le président de la République n'en parlait pas. Le premier ministre n'en parlait pas. On a retrouvé des documents où le ministre de la Santé avait mentionné une fois dans une interview le problème, mais alors que c'est une autre vision de nous-mêmes, du rôle des pouvoirs publics. Aujourd'hui, quand quelqu'un meurt sans avoir atteint un âge canonique, on cherche des responsables. ça, c'est la civilisation d'aujourd'hui. C'est soit lui le coupable, soit les fabricants de produits, soit les pouvoirs publics. Quelqu'un est coupable si on ne vit pas jusqu'à 90 ans. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui, et nous avons tous intégré cela.
Oui, mais pour rebondir, je vous donne une anecdote. Les certificats de décès, jusqu'à une date relativement récente, enfin, je crois que c'est le début du 20e, et ça, c'était à vérifier, mentionnaient comme cause de décès possible la vieillesse. Ouais. Aujourd'hui, ça a disparu, on dit rupture de l'aorte, ou il faut une chose, comme si chaque cause était un accident. Et pas dans l'ordre des choses, ça rejoint vos réflexions sur la destinée de l'humanité et ce qu'on attend de notre place dans ce monde. Il y a un autre aspect extrêmement séduisant dans le livre, c'est que nous sommes dans une société aujourd'hui où le salut vient toujours de l'avenir. Dans le vôtre, c'est l'inverse. Le salut vient du passé et d'une sagesse perdue. On pourrait presque, mais c'est une provocation, prenez-la comme ça ou comme une boutade, le qualifier de roman le plus réactionnaire de la rentrée, puisque finalement, voilà, ce salut vient d'une sagesse perdue, d'un monde englouti et pas de cet avenir qu'on nous décrit toujours comme le plus riant.
Pourtant, je suis quelqu'un qui est fasciné par notre époque. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui regarde notre époque avec méfiance. Je ne voudrais certainement pas vivre à un autre siècle, ni par exemple aller chez le dentiste au XVIe siècle. mais il y a des moments dans l'histoire qui sont fascinants parce qu'ils révèlent quelque chose d'inattendu dans la destinée humaine. Je crois que ce que révèle le miracle athénien de cette époque-là, c'est qu'il y a dans l'être humain des possibilités qui ne dépendent pas de son avancement technique, qui ne dépendent pas de son avancement économique, qui viennent d'un cheminement à l'intérieur de l'esprit humain. Et ça, pour moi, c'est une raison d'espérer. Je pense qu'il peut y avoir en nous des ressources que nous ne connaissons pas vraiment et qui peuvent nous permettre de repenser le monde et de reconstruire le monde. Et, Et c'est cela, je ne prendrai pas beaucoup d'époques du passé, je pense que dans cette époque-là, cette époque, ce moment du passé, il y a une inspiration et une espérance.
Mais écoutez, ça pourrait être le mot de la fin. En tout cas, c'est plus qu'une inspiration, une espérance. C'est une voie que vous montrez. Elle n'est ni d'hier, ni de demain. Il s'agit peut-être, dans cette époque un peu trépidante et stroboscopique, d'avoir le courage, comme les deux personnages de votre roman, de se mettre provisoirement en recul pour observer, rentrer en soi-même et trouver ce qui fait le sel de l'humanité et d'accepter peut-être aussi que la beauté de l'humanité est dans ses failles, au-delà de ces grandes projections, ce qui fait le salut, c'est peut-être simplement la compassion, pour prendre un mot un peu religieux, mais votre livre n'en manque pas. Qu'est-ce que vous en pensez? La compassion, la bienveillance?
Oui, et puis l'amour. Je pense que les deux personnages, même s'ils sont parfois assez cérébraux, finalement, leur manière de faire face à la férocité du monde, c'est de se prendre l'un l'autre dans les bras et de chercher dans leur étreinte une manière de se protéger du monde. Je crois que un des aspects de notre époque, c'est que le monde devient difficile à comprendre, difficile à appréhender, difficile à suivre. Et souvent, il faut partir de ce qui est le plus proche de soi-même, de son environnement immédiat, et commencer à rebâtir à partir de là.
Eh bien, écoutez, nous avons fait une grande boucle, nous en arrivons finalement à une possibilité de rédemption par l'amour du prochain. Je vous remercie, monsieur, pour que nos auditeurs poursuivent cette réflexion. Je les invite bien entendu à se procurer le livre et à s'y plonger. Il s'agit donc de « Nos frères inattendus » par Amine Malouf de l'Académie française, aux éditions Grasset. Thank you.